J'aimerais parler sur bénédiction dans la nuit, dans le psaume chapitre 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit, mon cœur m'exhorte. Pour beaucoup de gens, la nuit, c'est un sujet de tourment, c'est un sujet de trouble, c'est un sujet d'angoisse. Pourquoi ? Parce que ils pensent aux cauchemars qu'ils vont faire, ils pensent peut-être aux souffrances qu'ils connaissent, alors ils prennent des somnifères, ils essaient de chercher du repos, ils n'en trouvent pas. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons découvert que même la nuit, notre bon Père Céleste veille sur nous et nous ne sommes pas dans la crainte, nous ne sommes pas dans l'angoisse, nous pouvons dormir en paix parce que nous nous déchargeons de tous nos problèmes, de tous nos soucis sur le Seigneur. Et que pour Dieu, la nuit, c'est pas un problème. La Bible dit que pour Dieu, la nuit, elle brille comme le jour. Même si pour nous, la nuit peut nous paraître effrayante, en tout cas, pour Dieu, l'obscurité, c'est pas un problème. Et on voit qu'il nous bénit même la nuit. Le premier point, c'est dans Jean chapitre 12, verset 24, c'est que Dieu nous transforme dans la nuit. Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus prend ici l'exemple du grain de blé. C'est intéressant cet exemple de la nature, parce que le grain de blé a une particularité, c'est qu'il ne germe pas naturellement. Une fois que vous l'avez pris dans les champs, vous le stockez, et il va rester intact. Il ne va pas germer. Il y a une fine pellicule qui l'entoure qui fait qu'il est dur à l'extérieur. À l'intérieur, il y a tout le potentiel de vie, mais il ne va pas germer tant que vous ne l'avez pas mis dans la terre. Et c'est là, dans la terre, on va dire, dans la nuit, dans l'obscurité, c'est là que la carapace va se fissurer et que le grain de blé va germer. Alors, il peut rester à l'extérieur très longtemps, sans germer, mais dès qu'il passe par l'obscurité, eh bien, il y a le fruit qui jaillit. Le fruit va venir à maturité et un grain va en produire 30, 60, 100. Et on se rend compte que pour avoir le fruit, les 30 grains, les 60 grains, les 100 grains, il y a un processus qui passe par l'obscurité, par la nuit, sous la terre. La semence, donc, doit accepter de passer par la mort pour produire la vie. C'est un processus de transformation douloureux, mais en même temps, c'est comme ça qu'elle va produire du fruit. Donc sans ce lieu obscur, sans la terre, sans être sous la terre, la semence ne développera pas son plein potentiel. Le potentiel est en elle, mais il n'arrivera jamais à maturité. Il faut qu'il passe dans l'obscurité. Et l'objectif de Jésus ici, c'est de nous montrer que si on meurt à nous-mêmes, si on accepte l'obscurité, de passer sous la terre, de mourir à cette vie, eh bien nous allons produire un fruit que nous ne pourrons jamais produire autrement. Ce lieu obscur n'est pas notre destinée, ce lieu obscur c'est un passage pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand. C'est ça l'exemple du grain de blé. Le grain de blé c'est pas une défaite, quand il est planté en terre, c'est pas la mort, c'est au contraire la vie qui jaillit du grain de blé pour produire davantage de fruits. Ça, c'est le premier exemple que je vois dans l'Écriture, comme quoi Dieu utilise la nuit pour nous transformer et faire développer en nous des qualités spirituelles et un fruit que nous ne pourrons jamais avoir autrement. Un deuxième point, c'est maintenant comment Jésus intervient parfois à la quatrième veille de la nuit, dans Matthieu chapitre 4 et au verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battu par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, c'est-à-dire vers les disciples, marchant sur la mer. Si on remonte un petit peu l'histoire, Jésus avait obligé ses disciples à traverser la mer et leur avait dit « Rendez-vous de l'autre côté ». Et lui, il était allé sur la montagne pour prier. Mais voilà qu'au beau milieu de la nuit et au milieu du lac, il y a une tempête qui survient. Et les voilà battus par les flots et sur le point de s'enfoncer. On est dans le pire moment, c'est la nuit, et au pire endroit, c'est au milieu du lac. Parce que quand vous êtes au milieu du lac, il n'y a pas d'endroit plus proche pour aller quelque part. vous êtes loin de toute rive. Au milieu du lac, la tempête survient, et pas à n'importe quel moment, en pleine nuit. Et vous savez que la nuit, on imagine toujours le pire. Si on a un accident la nuit, on ne voit pas. Les choses sont sombres et angoissantes. Donc, la nuit, c'est plus difficile. Mais Jésus va venir à leur rencontre, le texte précise, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire à la dernière veille, car dans le système de comptage des différentes veilles de nuit, il y en avait quatre. Et la quatrième, c'est donc la dernière. Après cette veille, c'est le lever du soleil. On va dire que Jésus attend le dernier moment pour agir. La quatrième veille, c'est la dernière. Et c'est pourquoi on pourrait se poser la question, mais pourquoi, Seigneur, tardes-tu? Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il intervient simplement au dernier moment. C'était encore le bon moment. Et puis, c'est à ce moment-là que Pierre va faire cette expérience de foi que nous connaissons. Il va avoir l'audace de sortir de la barque et marcher sur l'eau. Ça veut dire que dans l'obscurité, vous allez faire des expériences que vous ne ferez jamais autrement. Dans l'obscurité, Pierre a osé sortir de la barque et marcher sur la mer. C'était dans une condition de tempête. Mais la nuit est favorable à des expériences nouvelles, des expériences de foi. L'obscurité, donc, va produire en nous quelque chose de nouveau, quelque chose d'audacieux. Dans la nuit, on va réévaluer nos priorités. On va se centrer sur l'essentiel. On va s'attendre à Dieu et aux miracles. Et c'est vrai que dans la plus grande épreuve, dans les plus grandes nuits, c'est là qu'on prie davantage, c'est là qu'on s'attend davantage à Dieu, et c'est là qu'on fait les plus grandes expériences avec le Seigneur. Certains, malheureusement, utilisent leur énergie pour faire des disputes, des jalousies, des pensées vaines, et ils n'ont plus d'énergie pour Dieu. Alors utilisons notre énergie pour le Seigneur, à chercher Dieu, non pas à nous disputer, non pas à chercher le mal de l'autre, mais à chercher la face de Dieu. Et cette énergie, nous en avons besoin pour le Seigneur. J'ai pensé à ce texte de Psaume 66, verset 12. C'est ce texte qui dit « Tu as fait monter des hommes sur nos têtes », donc sur le peuple d'Israël. « Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Et en méditant ce texte, je me rends compte que Dieu ne leur a pas laissé le choix. Il les a fait passer par le feu et par l'eau. Ce n'était pas soit l'un, soit l'autre, mais c'était les deux. Et peut-être on aimerait mieux avoir le choix. Personnellement, entre les deux, moi je choisirais l'eau. Mais entre les deux, en fait, il a dit c'est le feu et l'eau. Donc on n'a pas le choix. Et remarquez que les deux sont utiles. Par exemple, pour le potier, lorsqu'il utilise l'argile, il a besoin de l'eau tout d'abord pour assoupir l'argile et lui donner la forme qu'il souhaite. Et quand le potier donc travaille sur le tour, il va imbiber l'argile d'eau pour assouplir l'argile et lui donner la forme qu'il désire, soit l'étirer, soit l'élever, soit la rabaisser. Il fait ce qu'il veut tant qu'il met de l'eau, ça assouplit l'argile. S'il ne mettait pas d'eau, l'argile va se désagréger, il va s'abîmer parce qu'il sera trop raide. Mais avec l'eau, il reste souple. Donc Dieu utilise l'eau pour nous façonner. Mais cette argile, il a besoin de plus que de l'eau. Il faut à un moment donné qu'il passe par le feu. Et c'est en passant par le feu que cette argile va développer toutes les caractéristiques de la céramique. Il va devenir solide, il va s'endurcir et il va pouvoir être un vase utile. L'eau pour assouplir, le feu pour endurcir. Eh bien, ces deux paramètres sont entre les mains de Dieu, qui est le divin potier, et qui va nous faire passer tantôt par l'eau, tantôt par le feu, mais toujours dans un but de nous façonner, de nous former, de nous équiper pour sa gloire. Tout cela, ça se passe dans l'obscurité, tout ça, ça se passe la nuit, mais Dieu agit aussi dans ces moments-là. Un troisième point, c'est que Dieu agit aussi vers le milieu de la nuit. Dans Actes chapitre 16, verset 25, « Vers le milieu de la nuit, toujours la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » le récit a mal commencé parce que les apôtres ont été battus, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés parce qu'ils ont délivré une femme habitée d'un esprit de Python, c'est-à-dire qu'elle disait l'avenir. Et étant délivrée, elle ne pouvait plus procurer d'argent à ses maîtres. Alors, ils l'ont arrêtée, ils ont arrêté les apôtres, ils les ont mis en prison, dans la prison intérieure, c'est-à-dire celle pour les grands criminels, et ils les ont attachés avec des blocs de bois dans les pieds pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. On va dire que la situation était très défavorable pour les apôtres. Et généralement, quand ça se passe mal, notre première attitude, c'est de nous plaindre. C'est de dire, Dieu nous a abandonnés. Ça ne se passe pas comme on avait pensé, comme on avait espéré. Et on est là plutôt dans la défaite et les gémissements. Mais Paul et Silas ont eu une autre attitude et ils se sont associés pour décider de louer Dieu dans cette épreuve. Et c'était le bon choix, parce que la Bible dit que Dieu a transformé la situation alors qu'elle était très négative. La nuit, en fait, nous rend plus humbles. La nuit nous rend plus à l'écoute du Saint-Esprit. La nuit va nous rendre plus forts spirituellement. La nuit va nous permettre de faire des expériences nouvelles. Comme Joseph, dans l'Ancien Testament, il est passé par la nuit, il est passé par des fausses accusations. Vous savez comment la femme de Potiphar a dit à son mari que Joseph avait essayé de la violer. Le mari, donc Potiphar, a cru sa femme. Il a fait mettre Joseph en prison. Donc, Joseph passe par la nuit. Il a des fausses accusations sur le dos. Il est dans la prison, donc il n'y a pas tellement de solution pour lui parce qu'il ne peut pas sortir. Mais en fait, dans cette prison, au lieu d'être diminué, Joseph, il va être fortifié. Il va être gardé par Dieu. Et il va être préparé pour le jour J où il va sortir. Et dès qu'il va sortir, il va se retrouver juste après Pharaon dans le royaume, une position de ministre, une position très élevée. Mais cette nuit dans la prison a été un moyen pour Dieu aussi de l'humilier, de travailler son cœur, de le préparer aux responsabilités qu'il attendait derrière. Alors évidemment, on ne le sait jamais à l'avance comment les choses vont tourner. Et Joseph était là dans la prison. Bien sûr, il se confiait en Dieu, mais il ne savait pas du tout comment Dieu allait faire, ni quand est-ce qu'il allait agir. Et c'est un peu notre situation. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire, nous ne savons pas quand il va le faire, mais nous savons une chose, c'est qu'il va le faire en son temps et de la meilleure manière. Et ça reste dans nos cœurs la nuit. Notre plein potentiel ne s'exprime pas quand tout va bien, mais il va s'exprimer dans l'obscurité. En fait, nous avons même en nous un potentiel et des capacités que nous ignorons. Par exemple, nous avons une résistance. Il y a un verset qui dit que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Nous avons des forces que nous n'imaginons même pas, mais elles vont se révéler la nuit. Il ne nous tentera pas au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Il y a une solution. Mais quand on est tenté jusqu'au bout de nos forces, sans aller au-delà, mais jusqu'au bout, on est dans l'obscurité. On a l'impression de ne pas voir la fin. Et c'est là, remarquez que là, Paul et Silas sont dans la nuit, ils choisissent de louer, et tout d'un coup, dans la nuit, Paul reçoit un don de révélation. C'est-à-dire que dans la nuit, vous allez faire des expériences spirituelles, des dons, des révélations. Et il va dire, non, ne te tue pas. Il s'adresse au geôlier. Il ne le voit pas, mais il a reçu par l'esprit que le geôlier est sur le point de se suicider. C'est la nuit. Il n'y a que Dieu qui peut donner des révélations comme ça la nuit. Et pendant la nuit, alors qu'il donne cette parole de connaissance, le geôlier est touché, il fait détacher Paul et Silas, les invite dans sa maison, et la nuit même, alors que c'était l'obscurité la plus complète, cet homme va ouvrir son cœur à la grâce de Dieu. Il va être sauvé, lui et sa famille, et ils vont être baptisés dans la même foulée. La même nuit, toute cette famille, le geôlier, sa femme, ses enfants, ont été touchés par la grâce de Dieu et ont été sauvés. La nuit peut paraître négative, mais quand on la prend bien et selon l'esprit, elle se transforme en bénédiction. La bénédiction de Dieu est là, même si vous êtes dans la nuit. Alors c'est vrai, quand on connaît de la fin de l'histoire, elle est belle la fin de l'histoire, parce qu'il y a des baptêmes, le geôlier est sauvé, sa famille est sauvée. Quand on connaît la fin, c'est facile de louer Dieu. Mais quand vous êtes au moment où Paul est dans la nuit, dans la prison, il ne connaît pas encore la fin de l'histoire. Et c'est là ce qui plaît à Dieu, c'est quand nous louons Dieu, on ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais on peut déjà louer Dieu parce que Dieu va agir. C'est ça la dimension de Paul et Silas. Ils louent Dieu, ils ne savent pas que le geôlier va se convertir. Ils ne savent pas encore comment Dieu va agir, que tous les liens vont tomber, que les portes vont s'ouvrir. Et ça, ça plaît à Dieu, et là, il fait le miracle, il intervient dans sa puissance. Alors, comment allons-nous réagir la nuit? Est-ce que vous allez devenir amer? Est-ce que vous allez quitter le Seigneur? Est-ce que vous allez en vouloir à Dieu? Seigneur, pourquoi tu as permis cette situation? Pourquoi tu as permis que je me retrouve comme ça, rejeté, malmené à mon travail, peut-être rejeté dehors? Et Paul et Silas auraient pu se plaindre. Ils auraient pu en vouloir à Dieu. Ils auraient pu dire « c'est pas normal ». Ils auraient pu dire « on vit une injustice, ce qu'on nous fait, c'est mal ». Et c'est vrai. Mais ils ont choisi de donner leur reconnaissance à Dieu en premier, la nuit. Psaume 66, verset 20, voilà la louange qui doit venir dans nos cœurs. « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. » Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Voilà une prière qu'on peut faire, même dans l'obscurité, même quand on nous accable, même quand tout est contre nous, eh bien nous pouvons dire « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances ». On ne sait pas comment la chose va finir, on ne sait pas ce que Dieu va faire quand il va le faire, mais on peut déjà le proclamer de notre bouche et y croire dans notre cœur. Ça, c'était le troisième point. On arrive au quatrième élément, c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est aussi la nuit. Dans le psaume 23, verset 4, David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » On sait que David était berger pendant des années, personne ne s'intéressait à lui, il gardait les troupeaux de son père, mais ce temps n'était pas inutile. Il y a des temps qui vont vous sembler longs, où vous avez l'impression que Dieu ne s'occupe pas de vous, que rien ne se passe comme vous voulez, mais ces temps étaient des temps de préparation. Dieu savait qu'un jour il allait confronter un Goliath quelque part, et pendant ces temps de préparation de berger, il a déjà confronté des lions, des ours, il a dû protéger son troupeau et développer déjà beaucoup de qualités pour être un conquérant. Mais il était dans un lieu obscur, il était caché, loin de la foule, loin du palais. Le roi ne le connaissait pas. Et c'est dans ce lieu obscur, loin de la foule, que l'âme de David, son cœur, son esprit est en train d'être préparé pour sa mission. Alors peut-être aujourd'hui, le travail que vous faites, vous n'êtes pas considéré. Peut-être toutes les portes se sont fermées, vous avez été mis de côté. Mais ce lieu obscur, en fait, c'est un lieu de préparation. Et c'est là que se prépare la bénédiction à venir. Et c'est jamais en vain, parce que tout ce que David a appris dans ce lieu de retrait, dans ce lieu obscur, eh bien ça lui a été utile par la suite, quand il a été dans la lumière. Le psaume 23 est très intéressant dans sa structure, parce que David commence par dire que l'Éternel est mon berger, il me conduit dans les verts pâturages. Et on aime bien, nous, les verts pâturages, c'est-à-dire dans les endroits paisibles. Il y a de l'eau, on est tranquille. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit après, tu me conduis après dans les verts pâturages, après il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et quand il y a l'ombre, c'est obscur. Il y a d'autres versions qui disent, il faut traverser la vallée obscure. Ou une autre version dit, la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Et c'est cette obscurité-là par laquelle David va passer. Il sait que ça fait partie aussi du chemin. Il n'y a pas que les verts pâturages, il n'y a pas que les lieux de repos, il y a aussi l'obscurité. Donc on ne peut pas y échapper, ça fait partie de la vie. Après la sombre vallée, vous voyez, le psaume 23 ne s'arrête pas avec la vallée obscure, parce que derrière la vallée de la mort, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Après la vallée de la mort, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Après la vallée de l'ombre de la mort, il y a la victoire et la bénédiction. David le sait, mais il sait aussi qu'il y a ce passage que Dieu a permis. Mais il se rappelle que derrière, il y a une bénédiction. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pas fini, ça s'arrête pas là. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ensuite, il y a le bonheur et la joie qui m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Et donc, on voit que la vallée obscure se trouve en plein milieu, mais ça n'est pas la fin du récit. C'est comme pour nous, c'est un passage par lequel David va passer. C'est un passage qui n'est pas un hasard, parce que derrière, il y a des bénédictions, il y a des grâces qui arrivent, il y a des tables qui vont être dressées, il y a une onction qui va venir, il y a le bonheur et la joie qui vont être manifestés, mais tout cela passe par ce moment d'obscurité. C'est peut-être une perte d'emploi, c'est peut-être une défaite, une difficulté, mais derrière, il y a une opportunité parce que on a perdu un emploi, puis on va se retrouver dans un autre endroit que Dieu nous a poussé dans une nouvelle orientation et peut-être un nouveau travail qu'on n'avait pas envisagé et quelque chose qui est une bénédiction pour notre vie. Donc, il ne faut pas prendre les pertes d'emploi ou les mauvaises nouvelles comme des échecs. Finalement, c'est des réorientations de Dieu parce que même dans les plus grands échecs, on voit souvent qu'il y a les germes des plus grandes bénédictions. Simplement, il faut être confiant dans le Seigneur, que Dieu va même utiliser cette vallée obscure, cette vallée de l'ombre de la mort, pour nous permettre d'aller ailleurs, dans une autre situation bien plus favorable. Quand quelque chose meurt dans notre vie, il faut se rappeler qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître. Quand on perd quelque chose dans ce monde, on gagne quelque chose aux yeux de Dieu. Matthieu 16, 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Avec Jésus, quand tu perds quelque chose aux yeux de ce monde, tu retrouves quelque chose aux yeux de Dieu, de bien plus grand, de bien plus fort, mais ça passe par l'obscurité. Même quand un chrétien meurt, ça peut paraître une défaite, mais en réalité, il gagne quelque chose de plus. Quand un chrétien meurt, il se retrouve dans la présence de Jésus, dans le paradis. C'est encore plus grand, plus glorieux que la vie terrestre. C'est pourquoi Paul dit, « Moi, la mort m'est un gain. » Il ne voit pas la mort comme une défaite. Il sait qu'il va perdre quelque chose dans ce monde, oui. Il va perdre la vie. Mais il sait que c'est un gain sur le plan spirituel. Il va se retrouver dans la présence de Dieu. Voilà ce que c'est que l'obscurité. C'est pour nous un gain. Ensuite, un cinquième point, c'est maintenant la nuit de l'abandon dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Paul écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » On connaît tous cette dernière nuit, la nuit de Gethsémané, cette nuit où Jésus va offrir son corps en sacrifice, et Gethsémané où Jésus a versé des grumeaux de sang. La nuit de souffrance, la nuit de l'abandon, la nuit à vue humaine de l'échec, parce que la Bible dit que tous ses disciples l'ont abandonné lorsque les soldats sont venus pour arrêter Jésus, alors que Pierre avait dit « Si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais ». On peut le voir comme un échec, on peut le voir comme une faiblesse extrême, on peut le voir comme Jésus flagellé, torturé, fouetté avec des fouets, avec des croches pour faire saigner son dos. Donc, humainement parlant, c'est une défaite. Il est crucifié entre deux criminels. C'est la pire situation imaginable. Jamais les disciples auraient pensé que Jésus serait crucifié. C'était le Messie. C'était impensable. Donc, c'est vraiment l'obscurité, c'est la nuit, on ne comprend rien. C'est pas possible, Jésus crucifié comme un brigand. Mais même dans la nuit, nous ne devons pas oublier que Dieu dirige toutes choses, parce que Dieu a un plan qui nous dépasse. Et Dieu va changer le mal en bien. Et cette crucifixion qui était un mal et qui était le salaire des brigands, en fait, va devenir une source de salut pour tous ceux qui croient aujourd'hui. C'est la source de salut pour quiconque croit. Cette situation qui était mauvaise et injuste va devenir une source de bénédiction pour le monde entier. Parce qu'encore aujourd'hui, si vous croyez en Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés, vous êtes pardonné de tous vos péchés par la foi en recevant la grâce de Dieu. Alors peut-être c'est un échec qu'on a rencontré. Tous nous ont abandonnés comme Jésus a été abandonné par tous les disciples. Mais la vie n'est pas terminée et Dieu de ce mal, il peut en faire ressortir un bien. Et ça appartient à Dieu, c'est la manière de faire de Dieu. Il vous conduira au bon endroit, au bon moment, vers les bonnes personnes. Ce n'est pas les gens qui vont vous pousser, c'est pas les gens qui ont fait ce qu'ils voulaient, mais Dieu a permis ces choses-là pour arriver à quelque chose de plus glorieux. Derrière les gens, en fait, il y a la main de Dieu. Dieu utilise comme il veut, qui il veut, pour faire aboutir son plan. C'est comme les 5 pains et les 2 poissons que Jésus a pris dans ses mains. La Bible dit qu'il a rompu le pain. Le pain a été brisé. Mais pourquoi il a été brisé? Pour être distribué en masse. Et en fait, ce pain a été rompu pour une bénédiction. Parfois, nous sommes brisés aussi pour quelque chose de plus glorieux. À travers ce brisement, ça pourrait nous détruire, mais en réalité, ça va multiplier les bénédictions, multiplier les grâces. Il y a une dernière nuit à laquelle j'ai pensé, c'est la nuit de Golgotha dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est une nuit un peu spéciale parce que c'est en plein jour. C'est une nuit qui s'est produite en plein jour. Il y a eu l'obscurité sur toute la surface de la terre. C'est la nuit où Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est la nuit de l'incompréhension, la nuit de l'abandon. La nuit où Jésus a été fait péché pour nous, la nuit de Golgotha. La nuit la plus sombre précède le matin de Pâques. Et le matin de Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Mais il fallait passer par cette nuit-là. Et les disciples qui étaient tellement découragés après la nuit de la crucifixion, la nuit de Golgotha, eh bien, ils étaient dans l'idée d'aller embaumer le corps de Jésus qui était mort pour eux, il était toujours mort. Ils ne le savaient pas encore, mais Jésus était déjà ressuscité d'entre les morts parce que eux, ils étaient encore dans le mode nuit, mais Jésus était déjà dans la résurrection. Il ne reste pas dans le mode nuit. La nuit, c'est un passage. Derrière la nuit, il y a la résurrection, il y a la victoire, il y a la bénédiction. Donc ne restons pas sur Jésus qui est crucifié et ça s'arrête là, mais passons à la résurrection. Derrière la nuit de Golgotha, il y a la résurrection de Pâques. Et nous devons nous rappeler que Jésus est vivant et qu'il est tout puissant. Et c'est comme les 2 disciples d'Emmaüs, ils n'arrivaient même pas à reconnaître que c'était Jésus parce qu'ils étaient encore dans le mode nuit. Ils étaient encore dans la crucifixion. Leurs yeux étaient comme fermés. Mais quand Jésus leur a ouvert les yeux, ils ont découvert que non, on ne doit pas rester dans la nuit. Maintenant, on est dans le jour. On est dans la résurrection. C'est la bénédiction. Et là, ils ont compris et ils ont porté la bonne nouvelle. En conclusion, on a vu tous ces lieux obscurs qui existent, qui sont sur notre route. Ils ne sont pas là pour nous détruire, mais ils sont un passage pour développer en nous des caractéristiques, des qualités pour nous faire grandir. Et chaque nuit contient une bénédiction. Et nous, chrétiens, nous ne devons pas voir la nuit comme une défaite. Nous ne devons pas être frustrés quand nous passons par la nuit, mais nous devons le saisir comme une opportunité pour faire des expériences nouvelles avec le Seigneur, pour voir sa main, pour nous attendre à sa bénédiction. Alors on passe par toutes sortes de nuits, l'incompréhension, l'abandon, le doute, le rejet, on a vu ces exemples. On est peut-être comme ce grain de blé qui va tomber en terre, qui va mourir, et c'est la nuit, mais c'est pour laisser jaillir la vie. Je termine avec ce verset Galates 6,14. Paul avait saisi cette vérité par l'esprit pour ce qui me concerne. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est cette grande vérité spirituelle qu'il était mort au péché, il ne voulait plus des péchés de ce monde, il ne voulait plus vivre selon les principes de ce monde est crucifié pour moi, mais moi aussi je suis crucifié, j'ai été crucifié avec Christ, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il est passé par la nuit, mais il vit dans un autre mode, c'est le mode de la foi, c'est, il cherche à plaire à Dieu, c'est le mode où il veut faire des expériences avec le Seigneur, des expériences fortifiantes, renouvelantes, mais il est passé par la mort à lui-même. On va prier un instant. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, pour ta grâce, pour tous ces exemples de personnes qui sont passées par l'obscurité, mais que tu as gardées dans ta main puissante, parce que Seigneur, tu ne veux pas que nous disparaissions dans la nuit ou que nous mourions dans la nuit, mais tu as prévu pour nous ce passage pour nous permettre de sortir avec des expériences nouvelles, avec une foi renouvelée, avec une vision nouvelle, avec, Seigneur, cette confiance que même dans l'obscurité, tu es là et tu agis et tu as déjà préparé le moyen d'en sortir. Seigneur, nous voulons, comme Paul et Silas, te louer dans l'obscurité, alors même que nous ne savons pas quand tu vas agir, comment tu vas agir, comment les choses vont tourner, mais nous pouvons déjà confesser, Seigneur, que tu as l'autorité, le pouvoir, que tu es souverain et que tu diriges les temps et les circonstances. Alors même que la logique nous échappe, nous disons, Seigneur, tu es Dieu et tu es tout-puissant. Merci, Seigneur, pour l'exemple de ce grain de blé qui, une fois tombé en terre, va produire une multitude de bénédictions, une multitude de grâces parce que tu l'as voulu ainsi. Oui, Seigneur, nous te louons parce que ton plan est toujours parfait et chaque événement dans notre vie, Seigneur, est pour nous une occasion de croissance, une occasion de bénédiction. Nous voulons le saisir par la foi. Dans le nom de Jésus. Amen.